Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis ? Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Est trop fort. Il ne ressent rien. Regarde au plafond. Il n'ose pas la regarder. Elle le regarde. Gardez sa main sous son bras. Il reste quelques minutes ainsi. Puis, elle lui presse le bras et lui dit « Allons. Il faut partir. » Il la suit vers la sortie. Dehors, il pleut. Une pluie fine et froide. Avant de quitter l'allée, elle prend une cigarette de son sac et essaie de l'allumer avec un briquet. Il n'y arrive pas. Charles la regarde.
la voix vieille, visage pâle, sans maquillage, très tiré. Elle renonce à allumer sa cigarette. Amie, dans un café, il est fou. Charles lui dit oui. Ils vont dans le café arabe. Une odeur de crayon, d'alcool les enivre. La lumière donne un décor jaune sale. Il n'y a presque personne dans le café. Ils se dirigent à une table du fond. Ils sont tous deux trempés. Elle commande deux cafés. Puis met son sac sur la table et l'ouvre. Prend un mouchoir et s'essuie le visage qui est mouillé. Elle allume une cigarette. Allumé de suite. Charles reconnaît le parfum. Oui, le parfum, ce parfum qu'il enivre. Qu'il enivre. Mon Dieu, cette odeur. Il a le corps qu'il serre. Mais il est enivré par l'odeur. Jean-Denis, mon Jean-Denis. En baissant les yeux, elle lui dit, il est mort d'un accident de voiture sur l'autoroute qu'il ramenait à Lyon. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. La voiture a pris feu. Elle est très émue. On l'a retrouvée calcinée. Cela lui a fait mal de parler. Elle soupire. Puis, voilà. Ils restent une minute l'un en face de l'autre, sans se regarder. Puis, ils boivent leur café fumant et amer par petites gorgées. De temps en temps, elle range une mèche rebelle sous son écharpe. Après avoir bu, elle reprend une cigarette. Ils ne se disent toujours rien. À quoi bon? Elle sait qu'il l'aimait. Il sait qu'elle l'aimait. Et puis Charles est comme enivré par l'odeur de sa cigarette et à la tête vide. Le monde n'existe plus pour lui. Tout en fumant, elle continue à ranger sa mèche. Elle aussi s'en vider. Il ose à peine la regarder. Ses yeux sont les yeux de son frère. Son frère qu'elle a aimé tendrement. Charles voit qu'elle porte une alliance. Puis, ils se lèvent tous deux machinalement et vont vers la sortie. Dehors, il pleut toujours. Ils font quelques pas. Elle fume toujours. La rue est éclairée et vide. Charles respire toujours cette odeur. Elle s'arrête sous un réverbère. Ils sont tous deux trempés. Il lui fait face. Voilà, dit-elle tout bas. Il s'approche de plus en plus d'elle. Oh mon Dieu, mon Dieu, cette odeur, mon Jean-Denis, dit-il en lui-même. Il n'en peut plus. Il est comme ivre, enivré par ce parfum. Et ses yeux, son regard se noie dans les siens et l'embrasse sur les lèvres. Un baiser long, chaud, doux, parfumé. Elle le laisse faire et a fermé les paupières. Puis, il s'écarte d'elle. Elle reste les yeux, les paupières baissées et dit tout bas, je lui ressemble tant. Il relève les yeux et la voit s'éloigner sous la pluie. Et voici, c'est fini. L'histoire est finie. J'ai été obligé de décourter certains épisodes pour que la fin puisse bien cadrer. Ben c'est une histoire, un côté technique. Là, vous écoutez encore les eaux bleues de Keten Bay, les eaux bleues d'Hawaï. Keten Bay, qui était un compositeur que malheureusement, nous n'entendons plus. Certainement pour des raisons de mode, qui est un très très bon compositeur. Alors Jean-Denis, bien entendu, c'est François, et Yves, c'est le petit prostitué que Charles est allé où Charles est allé dans sa chambre avec lui, où il a trouvé le disque Les Eaux Bleues d'Hawaï. Jean-Denis, c'est le nom qui s'était donné pour faire de la radio. Mon histoire, elle date je l'ai écrite le 2-11-84 et finie le 23-2-85, 39 demi-journées, 80 heures. Mini-disque kilomètre, c'est-à-dire l'émission faire au kilomètre, 21-1-2006 au 25-1-2006. Début mini-disque le 25-1-2006 à 19h, fini le 28-1-2006 à 20h13. Ça fait 26 heures d'enregistrement. Mon histoire a lorsque je l'ai présenté il y a très longtemps, il y a eu un mini scandale parce que j'avais présenté en version intégrale sans coupure. Là, j'ai fait des coupures, j'espère que ça ne fera pas scandale cette histoire. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de difficultés à couper parce que je coupais au fur et à mesure que je disais. Vous avez dû vous en rendre compte qu'au bout de certains moments, je bafouillais. Je ne savais pas trop quoi dire. Mais enfin, j'y suis tout de même bien arrivé. Le sujet de mon histoire, au début, est parti d'un souvenir d'enfance. Un jeune garçon est arrivé à l'école. Il n'était pas comme les autres. Il avait une peau très dorée, très belle. Et puis, un jour, il m'a dit qu'il était de Tahiti et que son père était gendarme là-bas. Moi, qui rêvais d'îles lointaines, d'aller dans ces îles-là, c'était, comment dire, quelque chose de merveilleux, de formidable, d'avoir comme ami quelqu'un qui avait été dans ces, qui avait habité dans ces îles, dans ces pays. Je voulais, c'est être médecin, être médecin pour être dans un bateau et aller là-bas. Je rêvais de voiliers, de mer, d'îles enchantées, etc., etc. Et puis, je me suis trouvé avec cet ami-là, comme ça, qui, lui, avait vécu dans ces pays-là. Il me racontait comment était la vie là-bas. Bien entendu, la vie là-bas n'était pas aussi merveilleuse, aussi enchanteresse que je me l'étais imaginé, mais ça me faisait toujours rêver. Et j'étais ébloui, émerveillé par tout ça, et par ce jeune garçon qui me faisait rêver, qui me sortait de la grisaille de la ville. Le rêve rentrait dans mon univers. Lui me faisait rentrer mon rêve dans mon univers. Il faisait passer le rêve dans la réalité. Oui, passer le rêve dans la réalité. Et c'était vraiment merveilleux. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et en plus de ça, il était extrêmement gentil. C'était un garçon très gentil, très ouvert, très intelligent. Voilà. Et c'est ça, au début, qui m'a donné... donné le point de départ pour cette histoire. Bien entendu, après, j'ai brodé beaucoup d'autres choses, mais toujours avec ce point de départ. Vous entendez toujours la musique de Ketel Bay. Maintenant, comme il ne reste pour finir la semaine encore, disons, 19 minutes, alors je vais vous lire quelques petits tests que j'ai écrits dans les années 80, des petits tests courts. Ô temps ancien, où le monde n'était fait que de belles histoires aux images colorées. Ô temps ancien, où l'amour n'était que pureté, où le monde n'était qu'innocence. Ô temps ancien, où la vie avait l'odeur et la douceur du miel, où mes nuits étaient pures comme un ciel étoilé. Ô temps ancien, où la vie était faite que de merveilleux voyages au fil de l'eau et de chevaliers à la mûre écarlate, où mes journées étaient belles comme un soleil de printemps. ô temps ancien, où chaque matin je me levais avec l'espoir de joie, où toi, maman, tu me guidais dans un jardin plein de roses. Ô temps ancien, où ma joie n'était faite que d'un sourire, le tien, maman. Ô temps ancien, où mes pas suivaient tes pas, les tiens, maman, où la nature était un livre d'images. Ô temps ancien, où la beauté, c'était toi, maman, où le ciel était bleu et lumineux. Ô temps ancien, où l'avenir, c'était toi, maman, où la fin n'était que celle de l'innocence. Ô temps ancien, où le monde, c'était toi, maman, où l'amertume n'avait que le goût des fruits. Ô temps ancien, où Dieu n'était qu'un petit enfant allant à l'école, où la seule joie était de te faire plaisir, maman. Ô temps ancien, temps inoubliable, gravé dans ma mémoire pour toujours. Je regretterai toujours ton innocence, tes joies, tes sourires. Ô temps ancien, temps inoubliable, gravé dans mes souvenirs, dans ma mémoire, pour toujours. Temps où j'étais tout à toi, maman. Temps où tu étais tout à moi, maman. Je me suis fait étranger, étranger de ce monde, de cette vie. Rien ne me touche, ni les joies, ni les peines. Je vois le monde comme un spectateur qui chercherait pas à comprendre ce qu'il voit. Je me suis fait étranger, étranger de ma vie, de moi-même. Rien ne me touche, ni mes joies, ni mes peines. Je ne vois plus la vie. Je me suis fait étranger de mes peines, de mes joies. Plus rien ne compte pour moi, ni le réel, ni les réels, ni Dieu, ni sa religion, ni les hommes et ses contraintes. Je me suis fait étranger de la vie, de la mort. Je me suis fait étranger. Je deviens le néant. Je me suis fait néant. Enfin, je suis. Le ciel est gris, il fait froid et il neige. Il est 6h30, je me suis levé pour mettre France Musique et me suis rallongé car je ne suis pas bien, j'ai froid. La radio envahit ma chambre d'une douceur, douce mélodie en fa de... Je me souviens plus de qui. Je suis plaqué sur mon lit, droit, ne bouge pas. Je laisse mon corps être envahi par la musique. Ma chambre est dans l'obscurité, seul un petit rayon de lumière qui se faufile à travers un morceau rajusté de mes rideaux éclaire la pièce. Au bout d'un moment, avec l'aide de la musique, je suis parti à la dérive. Mon corps est léger, détendu. Mon lit devient une barque. Il voyage à la dérive sur une calme rivière pleine de soleil, d'un soleil vieillor. Je suis bien sur cette barque allongée. Je ne bouge pas. Je me laisse diriger par le courant. Au long de la pointe de l'horizon, un immense soleil, un énorme soleil, rouge, or. Le reflet du soleil sur l'eau le rend encore plus monstrueux. Il envahit tout le paysage. Je vogue. Mon corps est envahi par la douce chaleur du soleil et de la musique, qui me paraît bien lointaine, cette musique, car même la musique est dominée par le soleil. Autour de moi, tout est lumineux et beau. Je suis bien sur cette barque, j'ai chaud. J'ai dû m'endormir. Lorsque je suis en montagne, j'aime me lever tôt avant le jour, faire un peu copieux petit déjeuner avec un énorme bol de chocolat au lait, fumant, tartine de pain avec de la confiture de myrtille. Après ce petit déjeuner, je sors faire une promenade. Le village dort encore, tout est calme, pas le moindre bruit. Le jour ne s'est pas encore levé. Je quitte la route pour monter sur les alpages. L'herbe et les fleurs ont mis leur parure du matin qui a des perles de rosée. La rosée qui, comme chaque matin, purifie la nature en l'aspergeant de fines gouttes d'eau qui sera plus tard bénie par les rayons du soleil. Elle me lave mes chaussures chaque matin, car je suis son ami. La montagne qui m'entoure, les montagnes qui m'entourent sont encore dans la pénombre, mais au fur et à mesure que j'avance, devant moi, une boule jaune commence à monter à l'horizon. À mesure que cette boule monte, elle sort de la nuit, progressivement, la montagne qui se trouve en face d'elle. La montagne, qui n'était qu'un gros tas noir, enfile une robe pour la journée. Elle sera verte, avec quelques fleurs multicolores. Je suis bien. Je suis seulement un peu essoufflé. Je n'ai pas froid, mais mes mains et mon visage sont gelés. Lorsque je m'arrête pour souffler un peu et que je regarde tout ce qui m'entoure, ce silence, j'ai l'impression d'être dominé par la nature, que tout mon être se dissout dans le paysage. Au fur et à mesure que je me dissous, j'ai l'impression de m'élever, de grandir. Une énorme force envahit mon corps. Je me sens soulevé, élevé vers l'infini. Mon esprit se sent léger, léger. Je deviens ruisseau, arbre, montagne, fleur, soleil. Je suis nature. C'est comme cela que chaque matin, mon corps, mon âme se purifie, se baigne. Je me mets à genoux et je remercie Dieu des bienfaits qu'il nous a apportés. Et je me dis que l'homme aura beau faire dans ses travaux, il n'atteindra jamais la grandeur, la beauté, la pureté de la nature. Merci à l'artiste naturel. Même si l'artiste ne pourra pas atteindre cette perfection, pourra tout de même essayer de la copier. Je rentre dans une forêt de sapins qui me semble sombre et touffue. L'odeur du bois mouillé rentre dans mes narines. J'adore cela. Le silence est interrompu par le bruit fougueux des cascades. Je m'avance lentement en m'efforçant de faire le moins bruit. Je sais que le matin, très tôt, je risque de rencontrer des animaux, écureuils, marmottes, etc. En haut de la cime des sapins, le ciel est d'un bleu profond, sans nuages. Le soleil est à sa place et ses rayons jouent à cache-cache avec les branches des arbres. Je commence à avoir chaud, je quitte mon pull. À l'isière de la forêt, d'immenses montagnes au ciment neigé semblent me tendre les bras. Je continue ma route sur un petit chemin qui file au milieu d'un champ. Plus loin, sur ma droite, parallèlement à mon chemin, coule un petit torrent. Mais au fait, quelle heure est-il ? 9 heures ? Les autres doivent être levés. Il faut que je fasse quelques courses au village. Je dois écrire une lettre aussi. Tout doit être fait avant midi, car cet après-midi, j'ai quelques visites à faire et je dois me reposer un peu. Demain, nous avons décidé d'aller au Merlet. Je retourne dans la forêt, que cette fois me paraît moins touffue, car elle est attaquée par les rayons du soleil. Des centaines d'oiseaux chantent toutes parts. Dans les alpages, au loin, j'entends le village reprendre vie. Des voix humaines, de tous côtés, se font entendre. Les cloches de la chapelle sonnent la demi de 9 heures. Le soleil est bien fini. Non, excusez-moi, le silence est bien fini. Le paradis, c'est fini pour aujourd'hui. Adieu la pureté, au calme, à la grandeur de se sentir seul comme un dieu en pleine nature. La nature fait comme moi. Elle se cambre, se tient sur ses gardes et cache ses trésors. Demain, nous retrouvons, toi et moi. Voilà. Je retourne à la nuit. Je m'enfonce dans les ténèbres de l'enfer. J'ai beau crier, hurler, tendre les mains. Personne ne vient à mon secours. Je retourne à la nuit. Je m'enfonce dans les tourbillons de l'enfer. J'ai connu la lumière. J'ai connu l'amour, la pureté, la grandeur. Je connaîtrai la luxure, la débauche, la laideur. Le vide. Je retourne à la nuit. Je m'enfonce dans un monde, dans le monde de l'enfer. Mon monde ne sera fait que de passés, de pavés, de rues étroites, troubles, sales. J'aurai l'âme vide. Une douleur me traversera le corps et me donnera un désir inavouable. Je retourne à la nuit, je m'enfonce dans le monde de l'enfer. Ma vie ne sera faite que de fausses joies, de faux plaisirs. Pour donner le change, je ferai comme les chevaliers des temps anciens. Je me battrai avec de faux symboles, de fausses images. Je retourne à la nuit, je m'enfonce dans les feux de l'enfer. Mon corps ne sera plus que charogne. Mon corps ne sera plus que désir et mon âme sera broyée. Je retourne à la nuit, je m'enfonce dans les brasiers de l'enfer. J'ai connu l'innocence pureté, je connaîtrai la débauche. Non, je ne veux pas retourner à la nuit. Qui m'aidera à ne pas y retourner? Je ne veux pas retourner dans ce monde de débauche, de dépravé. Je veux rester dans le monde de lumière. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Aidez-moi. Je ne veux pas. Qui m'aidera? Je vous en supplie. Aidez-moi. Aidez-moi. Condamné à perpétuité, ni la mort, ni la grâce ne peuvent arrêter mes souffrances. Je suis la douleur immortelle, universelle. Je suis la douleur sans fin. Je suis la douleur éternelle. Mon âme est de celle des damnés. Mon corps est celui des désespérés. Je suis la vérité, l'éternelle vérité, l'inexorable vérité. Je suis l'éternel crucifié. Je suis la vie. Oh mon Dieu, quand m'enlèveras-tu mes chaînes? C'est si lourd, la souffrance universelle. Oh Dieu, réponds. Réponds-moi, je t'en supplie. Jamais, car tu es immortel. Bon, nous allons commencer encore, continuer les petits tests. Pour finir l'émission, des petits tests qui ont été écrits il y a très 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 longtemps. C'est pour ça que j'ai des difficultés à les relire, parce que c'est sur des papiers qui ont beaucoup vieilli. En plus de ça, le cahier où j'avais écrit, toutes les feuilles se sont détachées, alors j'arrive plus à trouver la page 2, 3, 4, 7, etc., etc. Pourquoi ne crèves-tu pas? Crève, que ton corps devienne la part des charognes. Crève, crève. Regarde, je t'ai tout pris. Il ne te reste rien. Je t'ai fait perdre toutes tes illusions, tous tes espoirs. Regarde tes mains, regarde autour de toi. Tu n'as plus rien. Te souviens-tu, lorsque tu étais jeune, tu y croyais, hein, la vie. Tu te croyais fort, plus fort que moi, orgueilleux. Tu croyais changer le monde, le remodeler à ta façon, jouer à l'apprenti sorcier. Au début, comme pour les autres, ça a été dur de t'enlever tes illusions. Et puis, tu as appris à courber la tête. Regarde-toi dans ce miroir. Vois comme tu penches la tête en avant. Vois tes rides, ta peau rugueuse comme de la terre. Tu es terre et tu retournes à la terre. Ta peau redevient terre. Tu vois tes rides? Ce sont toutes les illusions, toutes les souffrances. Tu n'es plus qu'un tas de douleurs. Pour que tu puisses vivre et accepter les souffrances, je t'ai donné un poison. Un poison terrible qui tue à petit feu d'une façon sadique. Ces souffrances sont terribles. C'est l'espoir. Grâce à ce poison, tu as tout accepté. Que sont devenus tes amours? Elles sont tombées en poussière. Dans la vie, tout n'est qu'illusion. On se bat pour posséder, pour aimer. Mais l'on ne possède et l'on n'aime que du vent. Mais crève, crève. Avant que tu meurs, Je veux te faire souffrir une dernière fois. Je veux te faire regretter cette chienne de vie que tu as menée. Crève, crève. Mais quand tes yeux, pourquoi sont-ils si lumineux? Crève! Je t'ai enlevé toutes tes illusions. Crève, crève! Mais crève donc! Tu ne dois plus avoir d'espoir. C'est fini! Qu'est-ce que cette lumière qui vient de ton âme? Pourquoi j'entends les mains et ton corps est-il penché? Ah non! Tu vas pas avoir l'espérance d'un au-delà tout de même. Cette chienne de vie ne t'a pas suffi. Il te faut l'espoir d'une autre vie. Crève, mais crève donc. Pourquoi ne crèves-tu pas? Je n'en finirai donc jamais avec toi. Espoir, espoir, quand crèves-tu? Mon armure et mon corps doivent le suivre. Je veux que tout mon être, que tout mon corps ne soit que douleur, que ma vie ne soit que ténèbres, que ma chair ne soit plus qu'un brasier se consumant éternellement, que mon cerveau ne soit sensible qu'à la douleur, qu'il reste paralysé au monde extérieur, que tous mes sens, mes yeux, ne voit que les aurores du monde, que de ma bouche sorte un éternel cri de douleur, que mes oreilles n'entendent que des injures, que mon nez ne sente que la puanteur de mon corps, que le toucher ne soit qu'un brasier ardent, que mes entrailles ne soient que pu et pourriture. Que tout mon être, pour l'éternité, soit qu'une immense douleur, qu'un cri d'horreur, que des rats ouvrent une plaie béante à mon ventre, d'où sortiront mes entrailles pour les dévorer. Que je prenne toutes les maladies, que je vienne cancer, que tout mon être soit un énorme cancer, puis je souffrirai. Plus je grandirai, la douleur, le geste douleur me mènera vers la grandeur de l'âme, vers l'absolu. Souffrir pour une noble cause, c'est refuser d'en guérir. Rien n'est plus grand que cela. Ne pas vouloir se laisser distraire par la moindre petite joie. Ne rien accepter en remplacement. Ne vouloir qu'une seule chose, la souffrance pour la recherche de l'absolu. Pas de vie, pas de joie sans l'absolu. Souffrir, tellement souffrir moralement que l'on souhaite hurler pour que la mort vienne. Pour pouvoir extérioriser ma souffrance morale, appeler la souffrance physique. Pour que le monde sache que je suis malheureux, que ma vie n'est qu'un cri de douleur, parce que je refuse de vivre dans une vie sans absolu. Je ne peux accepter de vivre comme les autres le font, en se contentant de ce qu'ils ont, de la médiocrité. Que ma souffrance devienne joie et l'absolu. Te faire souffrir une dernière fois, je voudrais te faire regretter tout ça. Oui. l'homme évolue, plus sa vie intérieure est grande, et les rapports avec l'extérieur et le monde qui l'entoure s'amenuisent. S'il continue dans ce sens, il deviendra qu'un esprit, dans et au-delà du monde, comme Dieu. Qui dit esprit dit homme, et comme l'homme est immortel, l'homme aboutira à son immortalité par la vie intérieure, car plus sa vie intérieure sera intense, plus sa vie deviendra esprit, donc immortel comme Dieu. L'art s'est créé pour s'exprimer, s'est créé avec son âme. On peut exprimer en cherchant à représenter la beauté, le beau. L'art peut représenter des idées, il peut enseigner la vie, le monde, l'homme. L'art peut se trouver de partout et tout exprimer. L'art se sert la plupart de choses pour s'exprimer, plusieurs sortes de choses pour s'exprimer. La peinture, les lettres, la sculpture, la musique, etc., etc. Toutes ces choses sont toutes égales les unes aux autres. Aucune n'est plus forte que l'autre. L'artiste et le public choisissent souvent ses goûts. L'art est reçu par nos sens, notre corps, notre âme. L'artiste, par l'intermédiaire de son œuvre, cherche à apporter des sensations à émouvoir. Une œuvre d'art qui laisse indifférent le public est une œuvre ratée. Il faut que notre corps et notre cœur puissent réagir à ce qu'ils voient, entendent ou touchent. Si l'on a envie de rire, pleurer, chanter, c'est que l'artiste a réussi. Une œuvre d'art peut être basée, faite, sur une chose utile de la vie quotidienne, tel un couteau ou la vie quotidienne d'un village. Même si le sujet est très simple, cette simplicité sera rehaussée par la façon dont le sujet sera traité. Un sujet simple, traité d'une façon simple, pure, sans artifice, peut devenir une grande œuvre d'art. Une œuvre d'art est réussie lorsque l'on sent pas la technique de l'artiste. Et pour ne pas sentir la technique, il faut s'exprimer d'une façon simple et claire. Le sujet peut être basé sur quelque chose de très grand, de très fort, comme par exemple une cathédrale, la recherche de l'absolu. On peut traiter ces sujets soit d'une façon très simple, très pure, car l'on pense que le sujet est suffisamment fort et qu'il n'a pas besoin d'être rehaussé par des artifices artistiques. On peut aussi traiter ces sujets d'une façon grandiose, symbolique, car l'on pense que l'expression ne doit pas être au-dessous du sujet. Mon avis personnel, c'est qu'il vaut mieux traiter un sujet puissant, fort, d'une façon simple. Cela permet au public, au lecteur, d'être directement dans le sujet, sans l'intermédiaire de l'artiste. Car l'artiste doit s'effacer devant son œuvre. On ne doit pas reconnaître l'artiste dans ce qu'il fait. Si l'on reconnaît l'artiste dans son œuvre, c'est qu'il a manqué d'imagination. Tout le monde ne peut pas être artiste, car il faut savoir voir, comprendre, être sensible. La plupart des gens ne savent pas voir. Ils voient sans réfléchir. Ils n'apprennent pas profondément. ce qu'ils voient. L'artiste doit leur faire voir ce qu'ils n'ont pas pu voir. L'art doit guider les gens dans le monde. La plupart des plus grandes œuvres d'art ont été créées après que l'artiste ait eu une grande douleur de l'âme. Cette douleur lui a permis de mieux comprendre, de mieux ressentir son âme. Car plus on connaît son âme, et plus l'âme participe à ce que l'on fait, et en connaissant mieux son âme, on a appris en même temps à mieux connaître celle des autres. Attention, notre époque tue l'art en faisant un produit de consommation. Est-ce de l'art ce que l'on nous propose? Non, car l'on forme le goût du public par la mode, la consommation. Il est de plus en plus rare de trouver à notre époque des gens qui ont un goût personnel. Et comment voulez-vous que les gens aient un goût personnel vu qu'on leur propose, vu ce que l'on leur propose? On va même jusqu'à dire au public que les articles de bazar sont des œuvres d'art. Notre époque n'a pas créé de nouveaux styles, mais elle s'est contentée d'imiter et de mal imiter les autres styles. Bien sûr, il y a des exceptions, mais elles sont si rares. Pourquoi ne créons plus? C'est parce que la création, comme ils disent, est entre les mains des hommes d'affaires, des petits bourgeois. Avant, elles étaient entre les mains des artistes, des mécènes. Ces gens n'étaient pas amoureux de l'argent, mais ils aimaient l'art et la création. Une œuvre d'art ne peut être conçue pour les masses, mais pour une personne. Elle doit être l'expression d'une personne. Faire une œuvre d'art pour les masses, pour tous, c'est faire une œuvre ou plutôt une chose à l'emporte-pièce. L'œuvre d'art doit être et ne peut être qu'unique. Elle ne doit pas chercher à plaire et même à avoir un public. C'est le public qui va à l'œuvre d'art. Ce n'est pas l'œuvre qui va à lui. Plus le public fait des efforts pour accéder à l'œuvre, plus l'œuvre est forte. Elle doit surprendre et éveiller l'esprit. Le public doit toujours être en éveil. Chercher à faire une œuvre d'art, c'est chercher à exprimer son âme. L'art est indispensable à l'homme, car il lui permet de connaître ses semblables et le monde qui l'entoure. Par l'intermédiaire de l'œuvre, il apprendra à voir et à entendre ce qui l'entoure. L'art, c'est voir avec son âme. L'art, c'est guider par son âme. L'art cherche à rehausser l'homme en lui affirmant ses goûts, en le rendant sensible au beau des choses et de l'âme. La douleur, c'est une négation qui lutte pour qu'on la croie réelle. Notre âme ne peut pas supporter certaines réalités qui sont le contraire de son plaisir. Alors, elle se cache la vérité. La douleur, c'est la lutte que la négation fait pour que l'âme puisse la voir et l'accepter. Lorsque la douleur est acceptée, elle se transforme en mélancolie. Cette mélancolie est une douleur chronique qui vient de temps en temps rappeler à l'âme les souvenirs de la lutte pour la négation. Que la douleur soit physique ou morale, c'est la même chose. Elle agit de la même façon sur l'âme. On a envie de vomir lorsqu'on a une crise de foi. On a envie de vomir lorsque l'on a une grande peine. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que la douleur physique peut se guérir, tandis que la douleur morale ne guérit pas. C'est surtout cette douleur-là qui nous démontre que nous ne sommes pas une mécanique. Elle nous démontre aussi que nous avons un corps, une âme. La douleur nous grandit, nous anoblit, en nous démontrant que nous sommes capables de souffrir par et pour les autres. Quoi que la douleur soit acceptée difficilement par l'âme, elle lui est indispensable, car c'est la seule nourriture qui lui apporte la preuve qu'elle est vraiment grande. Il n'y a pas que la souffrance qui peut nous démontrer que nous aimons tenons à une personne, mais elle nous la démontre aussi. Malheureusement, la souffrance, c'est la vie, et l'on ne devient vraiment humain que par la souffrance. C'est la leçon de la vie. La douleur physique et morale est indispensable pour la finition, la perfection de la nature. Plus la nature avance dans la perfection de la création, plus les espèces vivantes ressentent la douleur. La douleur permet de ressentir sa propre matière et le monde extérieur. La douleur, c'est comme l'œil pour la vie, le nez pour les odeurs. Elle est un sens supplémentaire en plus de la vie, la vue du goût, de l'ouïe, du toucher et de l'odorat. Ce sens supplémentaire est le plus important, car il nous prévient des choses qui sont contre la vie, des choses qui ne nous aimons pas, car qui dit vie dit amour. L'on peut pas vivre sans amour, et comme tout ce qui nous n'aimons pas est contre notre vie, et comme nous nous en apercevons en souffrance, la douleur nous aide à voir tout ce qui est nuisible à notre vie. Si la douleur physique n'existait pas, ce serait très dangereux, car comment pourrions-nous savoir que nous sommes malades? S'il n'y a pas quelque chose qui ne se voit pas, qui soit en nous, nous ne pouvons pas le savoir. Et pour le savoir, nous ne savons que par la douleur. Le cancer guérirait peut-être plus vite, plus facilement, si au début, il faisait souffrir. C'est grâce à la douleur que la nature est arrivée jusqu'à la perfection. L'homme a si bien réussi, c'est parce qu'il ressent plus que toute autre espèce la douleur, c'est-à-dire son monde extérieur et intérieur, ce qui lui permet de mieux dominer ce monde et de mieux se dominer. L'on ressent la douleur, plus on ressent la douleur, et plus est grand l'homme. L'homme ressent la douleur et sait s'en fortifier. Enfant, on nous empêche de jouer avec les allumettes. Lorsqu'on a été brûlé une fois, on a compris. Plus on souffre pour une personne, plus on l'aime. Ceci prouve que l'on est attaché et que l'on ne peut plus vivre sans elle. Plus notre âme souffre, plus nous nous affinons. Nous devenons plus sensibles, plus attentifs à ceux que nous aimons. Nous nous fortifions aussi, car chaque fois que nous souffrons, notre corps, notre âme, sans que l'on s'y habitue, en supporte plus facilement les tourments, ce qui permet pour certains d'entre nous de devenir philosophes et d'aider, conseiller les autres dans leur peine ou d'être mélancoliques, repliés sur eux-mêmes. Sans la douleur, l'âme ne serait pas ce qu'elle est. On souffre de voir une personne en peine, maladie, blessure, amour déçu. Et notre âme, grâce à cette souffrance, solidarise, secoue la personne. La nature, Dieu ou Dieu, a créé la souffrance pour que l'on puisse voir la misère du corps et de l'âme des autres et de soi, pour que nous soyons autre chose que des animaux qui ne pensent qu'à eux et ne vivent que par instinct. Voilà, c'est fini, excusez, j'ai beaucoup bafouillé parce que mes feuilles étaient perdues. La semaine prochaine, une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire qui sera peut-être douceur amère. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis ? Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
La CVRP, Cinéma, Vidéo, Radio Production, vous a présenté une cassette OB.